Bonsoir.
Il est 19h passé de
bien passé.
Bien passé de 6 minutes. Et c'est l'heure du Canu Info. Ce soir.
Ah bah après quelques brèves, toi tu vas nous parler de quoi par exemple?
Moi je vais parler de quoi? Ah, moi je vais parler fraude fiscale, fraude sociale, fraude quoi. Je vais pas des fraudes OTCL, mais je vais parler de fraude.
Et toi, d'accord, tu vas nous parler de quoi?
Moi, je vais faire une petite, deux petites nouvelles sur le Kurdistan, moi.
Ouais, bah moi, je vais faire un petit peu des banalités sur Gaza.
Des banalités sur Gaza. Très bien. Et ben, on va aller, hop.
C'est parti.
Ouais. T'as combien de brèves, toi? Ah, vous voyez, on était vraiment...
Ah, alors moi, j'ai une brève, moi.
Alors, c'est pas parce qu'on est...
qu'à commencer tout de suite.
C'est pas parce qu'on est à la bourre qu'on va avoir plein d'infos non plus, hein.
Et donc, il y a accident de chasse et accident de chasse. Chaque année, maintenant, des personnes innocentes sont tuées. Promeneurs, grand-mère qui taille sa haie, cyclistes qui passent sur la route. Prise pour parfois pour un sanglier, parfois pour un chevreuil. Ma grand-mère qui taillait sa haie avait été prise pour un cerf. Allez savoir pourquoi. Bref, ça, c'est les accidents tragiques.
Mais est-ce que pour moi, dans ce que tu dis...
Non, quand donc... c'est une brève, on est...
Dans ce que tu veux dire, c'est que les innocents, donc le sanglier n'est pas innocent. C'est ça que tu veux dire?
Non, je veux dire que ça, c'est des accidents tragiques.
Ah. Donc, tu veux dire qu'il faut
sanglier,
faire...
c'est pas un accident, c'est un flingage, c'est un meurtre.
Tu veux dire qu'il faut faire attention à sa coiffure, pas avoir des...
Non, bah, je vais arrêter ma brève, parce que l'idée d'une brève, c'est de la faire brève. Là, ça n'a plus de sens, là. C'est pas grave, tant pis, passe.
Mais tu veux pas nous faire ta chute?
Il y a un chasseur qui s'est pris une balle. Bon bah voilà. Après, je voulais dire toute ma sympathie et mon soutien aux sangliers de Loire-Atlantique.
Ah bah voilà, ça valait le coup d'aller jusqu'au bout. Toi, t'as des brefs, toi?
Bah non, j'ai pas de brefs.
Ah bah me regarde pas comme ça, alors c'est à moi.
Vas-y.
À l'appel du collectif Solidarité entre femmes à la rue, un rassemblement a été lancé ce mercredi devant la préfecture pour demander la libération de M, retenu au centre de rétention administratif à Lyon. M est le fils d'un membre du collectif et son fils est dans un état de santé fragile, incompatible avec une détention au CRA. Il risque l'expulsion vers la Guinée, le privant de sa famille ici, ainsi que de ses traitements et de l'accompagnement médical nécessaire. D'après Rebellion, à 18h20, une délégation devait être reçue à la préfecture.
Du mercredi.
Allez, c'est moi qui y vais. Alors, vous avez capté, cette fois, Biden ne rigole plus, il va faire quelque chose. Cette histoire de Gaza, de civils tués par dizaines de milliers, on a donc dépassé les 31 000 morts comptabilisés. On parle que des comptabilisés. Principalement des enfants. Et surtout, cette histoire de famine. Trois quarts de la population de l'enclave, selon l'ONU, qui souffre de famine. Des gens qui sont déjà morts de faim, réellement. À quelques kilomètres de monceaux de nourriture qui ont été apportés de tous les coins de la planète pour être livrés, mais qui ne peuvent pas passer la ligne, la barrière. Donc tout ça, ça suffit. Alors les Ricains vont faire quelque chose. Et oui, et Joe Biden va prendre une initiative spectaculaire. Alors l'article de Mediapart qui en parle commence par envisager ce que pourrait être cette initiative. Je cite l'article maintenant. A-t-il invoqué le statut d'allié et de protecteur historique d'Israël que peuvent légitimement revendiquer les États-Unis pour obtenir de Netanyahou une trêve des opérations militaires comme en novembre? Non. A-t-il fait observer au Premier ministre israélien que, depuis octobre, sans les 180 navettes d'avions cargo géants de l'US Air Force, l'armée israélienne, équipée presque exclusivement d'armement américain et qui ne dispose de certaines munitions que pour quelques jours de guerre, aurait pu être contrainte de retenir ses frappes et de dégarnir ses stocks, ce qui aurait fourni au président états-unien un argument de poids pour arracher à son ami Bibi un engagement à ne pas attaquer Rafah, où les humanitaires redoutent un carnage? Non. A-t-il menacé le gouvernement israélien de ne pas dégainer, comme d'habitude, un veto lorsque le Conseil de sécurité s'apprêtait à voter une résolution désagréable ou contraignante pour Israël? Non. L'article continue en disant « À l'image d'un banal Macron, impuissant mais adepte des gesticulations médiatiques, le président de la plus grande puissance de la planète, incapable de contraindre un allié et protégé qui lui doit pourtant tout, de mettre un terme à ce qui ressemble déjà à un début ou à une tentative, sinon une tentation de génocide, a fini par se contenter de chercher à en adoucir l'horreur en proposant des initiatives humanitaires à la fois tardives et dérisoires. » Bref, les Ricains, en partenariat avec d'autres pays de la planète, ont décidé d'envoyer de la bouffe à Gaza. Mais comme les Israéliens, du coup, ils disent « non, la bouffe, non, on laisse pas passer », alors tous ces pays alliés d'Israël, mais qui ne peuvent plus tellement assumer de laisser massacrer et surtout affamer autant de civils, ont décidé de parachuter l'aide humanitaire, en particulier de la nourriture. Il faut savoir que c'est un truc qui se fait parfois, de parachuter des colis de bouffe. Mais presque jamais, en fait, parce que c'est super cher, c'est super merdique, c'est dangereux. Là, par exemple, à Gaza, 5 personnes sont mortes il y a quelques jours, je sais plus, d'avoir pris une palette de bouffe sur la gueule. Merci l'aide. Normalement, on fait ça vraiment en dernière extrémité quand il vient d'y avoir une catastrophe naturelle dans une région qui est particulièrement inaccessible par la route. Des gens coincés par un tremblement de terre qui crèvent la dalle, on peut leur parachuter quelques colis de nourriture pour leur permettre d'attendre qu'on dégage assez les accès terrestres pour leur venir en aide correctement. Ça peut arriver. Mais ici, on parle bien d'un endroit où il y a plein de routes. C'est juste qu'au milieu de chaque route, il y a un militaire israélien qui bloque les camions de nourriture qui voudraient passer, enfin qui laisse passer au compte-gouttes. Attendez, on va vérifier tout ce qu'il y a dans le camion, on va compter. Non mais attendez, on va recompter. Donnez-moi la liste de ce que vous avez, que je vérifie si ça correspond bien. Non mais là, on sait pas. Attendez encore un moment, on verra. Bref, un truc qui fait que les camions peuvent pas passer. L'armée israélienne donc, armée presque intégralement, l'armée israélienne donc qui bloque ces trucs et qui est donc presque intégralement armée par les États-Unis. Vous captez le truc. Les États-Unis filent donc d'un côté des quantités incroyables d'armes qui servent à créer une catastrophe humanitaire et en même temps, ils dépensent des cent et des mille pour réparer cette même catastrophe humanitaire, mais pas vraiment en fait, par les moyens les plus merdiques qui soient. Et de toute façon, la quantité de bouffe larguée est complètement dérisoire pour une population de 2 millions de personnes affamées. Là, ils ont largué, je ne sais plus, 3 ou 4 tonnes de bouffe en une semaine pour 2 millions de personnes. Si on fait le calcul, ça fait quelque chose comme 200 grammes de bouffe par personne, c'est que dalle, quoi. Attendez, c'est pas tout. Alors, c'est pas tout. Larguer, c'est une chose, mais Biden prend aussi une autre initiative, et là, vraiment, ça rigole pas. Je cite encore l'article de Mediapart. Les États-Unis ont également annoncé leur intention de construire au large de Gaza un port provisoire pour l'accostage de navires transportant des secours humanitaires. 4 bâtiments de l'US Navy transportant le matériel nécessaire pour ce chantier viennent de quitter leur base de Virginie à destination de Gaza. Chaque jour, 2 millions de repas et 4 millions de bouteilles d'eau pourraient ainsi être livrées aux Gazaouis affamés et privés d'eau potable depuis des mois. Donc ça ferait un repas par jour et par personne. Le port de l'US Navy devrait être disponible d'ici 30 à 60 jours. Donc toujours pareil, pour pas dire aux militaires israéliens « Allez, bouge de là, l'arme que t'as dans les mains, c'est moi qui te l'ai payée », et ben ils mettent en place un truc qui est matériellement complètement dingue, qui va pas servir et surtout qui sera disponible dans 30 à 60 jours. 60 jours. Combien de personnes seront mortes d'ici là? C'est que vraisemblablement dans les 2 mois qui viennent, les causes de mortalité à Gaza, s'il n'y a pas de cessez-le-feu, ça ne sera plus du tout massivement les bombardements. La faim, la soif, les épidémies font déjà un sacré boulot, mais en fait ça ne peut que augmenter d'une manière complètement folle. Et on répète, tout ça pour contourner l'absence d'autorisation donnée à un pays et à un gouvernement qui doit jour après jour sa survie à la protection américaine. Selon les experts, si les livraisons d'armes américaines cessaient d'un coup, Israël serait contrainte d'arrêter la guerre au bout de quelques jours. Pas 60 jours, hein, plutôt 3, 5, quelque chose comme ça. Alors c'est quoi cette action humanitaire? Pour Biden, comme d'ailleurs pour Macron, puisque la France participe à cette histoire de parachutage de colis, c'est une manière de faire quelque chose de remarquable, tout en ne faisant surtout rien d'efficace. Soutien matériel à Israël, soutien financier, soutien diplomatique, soutien total, mais en même temps, on fait décoller 3 avions devant les caméras. Alors, il faut aussi rappeler quand même que pour Biden, l'enjeu n'est donc pas du tout de venir réellement en aide aux Palestiniens qui meurent de faim. L'enjeu est bien qu'il va y avoir des élections dans pas si longtemps et que du côté des gens qui pourraient ne pas voter pour Trump, il y en a plein qui commencent à trouver que vraiment c'est un problème ce soutien américain à Israël dans ce cadre d'un truc qui est tellement évidemment un monstrueux crime contre l'humanité. Qu'on l'appelle génocide ou pas, mais en tout cas c'est ça un truc qui est quand même en très grande partie fait avec le soutien américain. Et donc Biden, il va avoir besoin un petit peu des voix de ces gens qui trouvent ça, d'autant plus que en vrai que Trump a plein de voix, que de toute façon tous les pro-israéliens ils votent, tous les gens qui sont mordicus pro-israéliens ils votent pour Trump, ils voteront pour Trump, et donc Biden il est obligé d'essayer de rattraper un petit peu les autres qui de plus en plus ont tendance à lui en vouloir. Alors d'autres pays se tiennent un petit peu mieux que les États-Unis ou la France ou l'Union Européenne ou plein d'autres, hein. Le Canada par exemple qui a annoncé officiellement ne plus livrer d'armes à Israël. Alors c'est bien plus classe que ce que font les Ricains ou les Européens, mais en même temps ça sert pas à grand chose puisque de toute façon le Canada ne livrait déjà plus aucune arme létale depuis quelques mois en voyant ce qui se passait et la manière dont Israël menait cette guerre. Mais aujourd'hui, ils l'ont dit, avant, de manière pratique, ils le faisaient. Aujourd'hui, ils l'ont annoncé de manière vraiment officielle que dans ces conditions, c'était pas du tout possible de livrer des armes à Israël. Et puis, il reste des pays qui font, pour le coup, vraiment ce qu'ils peuvent. Et là, on pense bien sûr à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui avait obtenu de la Cour internationale de justice d'enjoindre à Israël de ne pas mener d'action de génocide et même de prévenir les actions de génocide. C'était en janvier. La ministre des Affaires étrangères d'Afrique du Sud était en visite hier à Washington et là elle a profité pour dire un peu ce qu'elle pensait de ce qui se passait depuis qu'il y avait eu l'ordonnance de la Cour internationale de justice. Et donc qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit les mesures provisoires ont été totalement ignorées par Israël. Nous assistons actuellement à une famine de masse devant nos propres yeux. L'humanité doit se regarder en face avec horreur et consternation et s'inquiéter de l'exemple que nous donnons. Et puis elle ajoute que d'autres pays pourraient penser qu'il y a une sorte de permission, je peux faire ce que je veux et rien ne m'arrêtera. La Cour internationale de justice, dit-elle, n'a pas été respectée. Et le jour où un Africain lui manquera de respect, j'espère qu'on n'ira pas voir ce dirigeant et lui dire « Écoutez, vous avez transgressé les limites, puisque vous êtes Africain, nous attendons que vous lui obéissiez », a-t-elle insisté. Voilà, la manif pour Gaza, c'est toujours samedi, c'est à 15h, c'est au terreau cette fois, et cette fois c'est pas un rassemblement, c'est bien une manif.
Et c'est le moment de la pause musicale. Pause musicale, et on va donc, comme le.
Allez, on dédie une chanson à Marine Le Pen.
Allez, on dédie une chanson à Marine Le Pen.
Toi, t'es bon qu'à planer. Ouais, je sens ta sème, j'ai l'avocat. Entre nous et un fossé. Toi, t'es bon qu'à faire la mala. Bébé, bébé du sale. Allo, allo, allo. Bébé veut du sale, allo, allo, allo. Million dollars, bébé tu veux ça. J'suis gang, oh game. Boy ne joue pas bang, bang, bang. J'suis gang, oh game. Boy ne joue pas bang, bang, bang. Bla 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 pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Bla 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 pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Bye bye, j'ai pas besoin de bye bye. J'sais pas fort, là j'ai pas le time pour toi. J'sais pas fort, là tu fais trop d'efforts. C'est bye là, c'est pour les mecs comme ça. Ta clé pour des pipettes, ça va claquer. Pour des pipettes, ça va claquer, crack. Pour les bons boys, ça va grave qu'écra. J'crois que c'est leur ding dong. J'suis gang, oh game. Boy ne joue pas bang bang bang. J'suis gang, oh game. Boy ne joue pas bang bang bang. Bla 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 pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Bla 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 pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Ah, depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça.
bébé veut du sale, allo, 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 million dollars, bébé tu veux ça. Bébé veut du sale, allo, 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 million dollars, bébé tu veux ça. Oh c'est chaud là, oh, oh c'est chaud là. Oh c'est chaud là, oh, oh c'est chaud là. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Tu fais tout, je fais.
Info.
Ah, et on va parler de bilan, et c'est Gabriel Attal qui fait sa com sur le bilan 2023 de la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Alors on passera le fait qu'ils mettent sur le même, dans le même panier les deux fraudes, c'est-à-dire les plus riches qui dissimulent leur richesse et les plus pauvres qui essayent tant bien que mal de grappiller les miettes. Des résultats historiques sont annoncés oui, c'est ça. En gros, devinez qui sont les plus gros fraudeurs. Eh bien, ce n'est pas celle-ci.
Les RSAST.
Ah, eh ben non. C'est pas toi qui essayais de gratter ton ticket de métro en le fouillant dans la poubelle. Enfin non, tu peux plus le faire maintenant. Ceux qui font le plus les poches de l'État, c'est ceux qui détournent l'argent au fisc. Hein. Le recouvrement de fraude fiscale en 2023 s'élève à 15,2 milliards d'euros. Donc on dit le recouvrement parce que ça veut dire qu'on espère que peut-être qu'ils vont payer. Ça veut dire que quand il y a aussi de grandes chances que dans les plus grosses fortunes, il y en ait qui aillent voir le fisc et qui disent bon, on va trouver un moyen de s'arranger. Hein, maintenant je déclare, mais je vais peut-être pas payer ce que j'ai pas déclaré jusqu'à maintenant. Donc c'est Attal, il avoue qu'il a augmenté et il a décidé d'augmenter de 25% les contrôles, principalement sur les plus gros patrimoines. Hein, donc en gros, voilà, on décide d'aller contrôler les plus riches, c'est là où on trouve les plus gros fraudeurs. Par rapport à 2019, c'est 3,5 milliards d'euros en plus de fraude de détectée. C'est quand même pas rien. Grâce une des fraudes détectées ou à cause des images satellites de Google mixées à du traitement logiciel, 140 000 piscines non déclarées ont été détectées. Alors si on peut se réjouir que des particuliers qui décident non seulement de privatiser des mètres cubes d'eau potable pour mouiller leur petit peu en pleine crise d'eau se fassent attraper pour ne pas avoir déclaré leur égoïsme au fisc par honte, non, je ne pense pas. D'un autre côté, on sait par expérience que les outils intrusifs, même s'ils sont utilisés sur des crapules, finissent quand même toujours par nous retomber sur la gueule. C'est un peu comme réclamer au pouvoir public la dissolution des groupes fascistes. On sait très bien qu'ils vont pas s'arrêter là. Bon, d'un autre côté, on sait aussi que la CAF, par exemple, utilise déjà l'IA pour cibler ses contrôles. Bref, on sait que c'est des outils qui sont utilisés. Bon, là, ça tombe sur des crapules, tant pis pour elle. En parlant de la CAF, le montant de la fraude aux prestations sociales s'élève à 1 milliard d'euros. Bon, c'est beaucoup. Mais c'est quand même beaucoup moins que 15 milliards d'euros. Et c'est encore beaucoup moins quand on sait que c'est pas juste les traînes savates de la CAF qui fraudent. Hein, c'est aussi les professionnels de santé pour 450 millions d'euros. Donc c'est un peu moins de la moitié.
Ah oui, c'est ça, c'est la moitié. Oui.
Ouais. Donc ces 450 millions, ça concerne la fraude à l'assurance maladie. Et dans 7 cas sur 10, il s'agit de professionnels de santé qui soit facturent soit facture des actes fictifs, soit surfacture des actes. On sait pas trop comment on fait parce qu'il y a pas trop de professions libérales dans le studio.
C'est-à-dire, on comprend. C'est-à-dire, il est forfait pour un ongle incarné, il a soigné un ongle incarné, 300 euros.
Ouais, voilà. Oui, on imagine. ou ton dentiste t'a soigné 10 caries au lieu d'en soigner 2, ou ton je sais pas quoi, ou enfin bref. Concernant la CAF, la fraude s'élève donc à 400 millions d'euros, sachant que les contrôles ont augmenté d'un tiers. En 2022, la fraude s'élevait à 350 millions d'euros. Donc on augmente, pour la CAF, on augmente les contrôles d'un tiers. On passe de 350 millions en 2022 à 400 millions en 2023. Bon, bah moi, je sais pas, si on devait un peu rééquilibrer les effectifs de contrôle, on aurait plutôt tendance à dire orienter-les plutôt vers le fisc. Et ce chiffre est quand même toujours à mettre en balance avec les 30% des bénéficiaires des prestations qui ne réclament pas leurs droits, c'est ce qu'on appelle le non-recours. Donc il y a toujours 30% de prestations sociales qui sont pas réclamées. On sait donc où trouver l'argent. Mais ça c'était pas une surprise, mais la demi-surprise que j'ai eue, c'est que cette info je l'ai trouvée sur le Figaro. Bon, après elle n'était pas, c'est pas une exclusivité le Figaro, parce que tout ça a été fait en conférence de presse, donc on le trouvait un peu de partout. Mais l'avantage du Figaro, c'est quand même les petites pépites qu'on trouve sous les articles. Et en gros, j'ai eu la joie de découvrir juste en dessous de l'article, de cet article, donc qui était intitulé piscine non déclarée, allocation familiale, faux arrêt de travail, les chiffres spectaculaires de la fraude sociale et fiscale. Déjà, rien que dans le titre,
on
voyait bien l'orientation du Figaro. Bon, quand même, le plus gros, c'était la fraude fiscale, ce qui n'apparaît pas dans le titre. Mais donc, ça, c'était donc en une du site. Mais donc, vous voyez comment sont faits les sites d'infos. Maintenant, en général, il y a une grosse une. Et sous cette une, ça renvoie à des petits articles qui sont en lien avec cette une. Là, c'était le cas. Donc, cette espèce de sous-article réservé, lui, aux abonnés. Le premier était donc en accès libre. C'est pour ça que j'ai pu le lire, était intitulé « Impôt 2 points, 12 indices qui déclenchent un contrôle fiscal ». Avec comme sous-titre, je les cite, « Alors que le gouvernement vient d'annoncer des résultats records en matière de lutte contre la fraude fiscale », donc cette fois-ci, là, on rentre vraiment dans le sujet, on parle vraiment de fraude fiscale, mais c'est pour que des experts nous dévoilent les points scrutés à la loupe par les limiers de Bercy. Bon, pour le reste, hein, j'ai pas pu voir la suite de l'article qui a été payant, comme je vous le dis, et je me sentais pas spécialement concerné par leurs petites astuces. Nous, nos experts pour décrypter les flicages de la CAF, ils s'appellent La Quadrature du Net, et leurs articles sont en accès libre et gratuit sur leur site.
Canu Info.
Du mercredi.
C'est Martial. Ça, c'est l'intro.
C'est Martial. Martial est festif en même temps. C'est un petit peu. Alors, demain, c'est la fête de Névrose pour les Kurdes, fête traditionnelle du Nouvel An et surtout de la résistance, qui a longtemps été interdite dans toutes les parties du Kurdistan, et notamment et surtout en Turquie, où elle était traditionnellement le théâtre d'affrontements entre les Kurdes et les forces de sécurité, qui n'hésitaient pas à tirer à balles réelles, notamment sur les enfants. Alors aujourd'hui, si la fête est autorisée, elle donne lieu encore à certaines formes de pression, comme par exemple dimanche dernier, l'égérie de la révolution tunisienne, Emel Matlouti, devait chanter en kurde à Istanbul, dans le cadre d'une célébration de Névrose. Il se trouve que sur le trajet pour aller sur le lieu du concert, elle et son groupe ont été contrôlés par la police. Contrôle qui a duré jusqu'à l'heure de la fin du concert.
Oh merde.
Qu'à cela ne tienne, Emel Matlouti a annoncé qu'elle se produirait bel et bien demain pour le vrai jour de la célébration du Névrose, et cette fois à Diyarbakir.
Ah, pas sûr qu'elle y arrive quand même, c'est loin.
A priori, je pense que là, elle devrait prendre ses précautions.
Vous avez décidé de parler sur toutes les pauses musicales que j'ai faites. Hop.
D'accord, chef. Et puisqu'on est dans les bonnes nouvelles, autour de la fête de Névrose, c'est donc à ce moment-là que la branche armée du PKK annonce qu'elle a abattu 15 drones turcs au sud Kurdistan, c'est-à-dire dans le nord de l'Irak. Là, du coup, moi, j'ai fini mes brèves, mais simplement, cette annonce des 15 drones turcs abattus par la branche armée du PKK, c'est en lien avec le fait que, récemment, les attaques s'intensifient énormément sur la guérilla kurde au nord de l'Irak, du coup, au sud Kurdistan.
Et c'est aussi parce que l'Irak et la Turquie se sont alliés pour intensifier les attaques contre le PKK. Et ça aurait un lien avec les nouvelles routes commerciales que voudraient construire la Turquie et l'Irak, qui entre l'Inde et l'Europe et l'Occident. Parce qu'en fait, il y a déjà des routes entre l'Inde et l'Occident qui passent de l'Inde jusqu'en Europe, mais en passant notamment par Israël ou par l'Égypte, et qui arrive ensuite en Europe. Et la Turquie, à l'initiative de la Turquie, une nouvelle route est en train de se construire qui passerait cette fois par l'Irak et la Turquie. Le problème, c'est que cette route passerait au milieu de positions tenues par la branche armée du PKK, et c'est pour ça que l'Irak et la Turquie ont un intérêt commun à détruire ces armées-là. Et je vous en parlerai plus la semaine prochaine, parce que il y a probablement un incident là-dessus, notamment avec la guerre qui se passe actuellement, enfin la guerre, le massacre que fait Israël contre la population gazaoui, en sachant que le Hamas est soutenu par le président Erdogan, et en sachant que les routes prévues passent effectivement par ces endroits-là, entre Israël et Gaza. Et donc voilà, il pourrait y avoir un intérêt dans le fait que cette région soit déstabilisée, notamment un intérêt de la Turquie et de l'Irak. Mais enfin, ça, c'est une enquête à creuser dont je vous donnerai les résultats la semaine prochaine, parce que j'ai encore rien creusé.
On va s'écouter.
Bah, du coup, on va s'écouter.
On est en train de s'écouter plutôt.
On est en train de s'écouter. On va s'écouter pour finir Névrose de Fermin Muguruza, qui est un chanteur basque qui rend hommage à la résistance kurde.
Brings us a brand new thing.
Et j'en profite pour rajouter entre ces brèves kurdes et le petit agenda qu'on va faire à la fin, que la célébration de Névrose, du Névrose kurde, aura lieu à Lyon demain, donc le jour de Névrose, à 19h, place Mazagran, dans le 7e. Donc si vous voulez fêter la résistance kurde avec le peuple kurde en dansant en cercle autour d'un feu et en sautant au-dessus d'un feu avec des chants traditionnels et des discours de résistance, venez donc à 19h, place Mazagran, demain, jeudi.
Et ce week-end, plein de manifs. Le 23 mars à 14h, place Jean Massé, il y a la marche contre les violences d'État. Donc, c'est contre les violences policières, pénitentiaires et le racisme d'État. Donc, c'est à 14h, place Jean Massé, ce qui permet d'enchaîner avec, comme on l'a dit tout à l'heure, la marche pour Gaza et pour la Palestine, le même samedi, et c'est à 15h, place des Terreaux. Donc si ça se trouve, si tout se goupille bien, la première marche file au terreau pour aller rejoindre la seconde. Et ensuite, il y a l'ECG qui est menacé d'expulsion à la fin de la trêve hivernale. Alors l'ECG, on le rappelle, c'est un espace autogéré à la Guillotière. C'est pour espace communal Guillotière. Donc voilà, c'est un squat qui tient depuis plusieurs années. Voilà, où il s'y passe plein de trucs chouettes à l'intérieur. Et du coup, ils organisent une semaine de résistance à partir du 27 mars. Parce que pour faire face à ce risque d'expulsion. Donc il y a tout un programme que vous pouvez retrouver sur le site de Rebellion dans l'agenda. Il y a tout plein de choses qui s'y passent pour la radio. Il y a notamment plusieurs plateaux qui sont prévus de la radio qui sont prévus d'être en direct à l'ECG, il me semble, notamment le lundi et le vendredi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et là, une prochaine grosse manif, c'est samedi 30 mars. Donc c'est en lien. C'est contre toutes les expulsions et pour un logement digne pour tous et toutes. Donc c'est le 30 mars à 14h devant la préfecture du Rhône, quai Victor Augagneur. Voilà, ça va être chouette. Ça va être musical parce qu'il y a plein de fanfares qui vont converger à cette manif. Voilà. Et pourquoi cette date? Parce que le 31 mars, c'est la fin de la trêve hivernale, période de répit pour les personnes précaires face au logement. Et donc, il y a plus de 4 millions de personnes qui sont mal logées et qui sont donc menacées par cette fin de la trêve hivernale. Voilà, mais ça, je pense que vous aurez l'occasion d'en entendre parler, mais ça permet de réserver votre date. Il est 19h40 presque et nous on a fini.
Ouais. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés et on vous laisse peut-être, sûrement, on les voit pas derrière le bocal, mais idée noire.
Radio Canu.
C'était Canu Info. C'était Canu Info. C'était Canu Info du mercredi. C'était Canu Info. C'était Canu Info. C'était Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.